Je m'appelle Céline Duverger, je suis assistante sociale à la PASS de Nantes. Avant de commencer mon propos, en fait, je vous entends tous les trois présenter vos passes. Du coup, moi, je vais présenter des choses qui vont être un petit peu différentes parce que à la PASS de Nantes, on n'est pas confronté aux mêmes difficultés d'accès des personnes aux soins. C'est-à-dire que, en dehors, par contre, du visa touristique, où là, on a un relais avec Médecins du Monde, en fait, on peut recevoir toutes les personnes qui se présentent. Et on a une ouverture à l'ensemble du plateau technique. Donc, je ne parlerai pas de ces choses-là. Je vais parler plutôt, en fait, des dérives en fait, qui se présentent du fait des situations sociales des personnes et qui vont aller utiliser le soin pour pouvoir avoir une réponse sociale. Donc, voilà, c'est un petit peu différent. Alors, en travail social, l'adaptation à l'environnement, à différentes demandes est un axe très fort. C'est aussi un intérêt très particulier qui m'a fait choisir de travailler à la PASS en tant qu'assistante sociale. Parce que c'est une consultation médico-sociale où nous intervenons à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de l'hôpital, auprès des usagers mais aussi auprès des professionnels et des bénévoles d'associations. Cette diversité dans le champ de l'intervention sociale est très exaltante. Cependant, cela suppose aussi de réfléchir constamment à nos missions afin de ne pas s'en éloigner, tout en essayant également de s'adapter à l'évolution du public, de leurs besoins et de leurs demandes. Donc, la thématique à laquelle vous m'avez demandé d'intervenir, les passes, tensions, dilemmes, choix collectifs, m'a donné l'idée de présenter une situation dans laquelle des glissements, des adaptations de nos pratiques ont été nécessaires afin de faire face à de nouveaux besoins. Donc, je suis assistante sociale à la consultation Jean Guillon depuis 8 ans. Et depuis 8 ans, j'ai pu constater une forte évolution du public accueilli. La PASS de Nantes a été créée en 1999. Cette évolution donc a, au fur et à mesure, imposé de nouvelles pratiques professionnelles liées à des demandes et des besoins différents. Donc, au démarrage de la PASS, le public était composé, on dirait, à peu près 50-50 personnes en situation de précarité, plutôt d'origine française, et puis 50% de personnes étrangères, dont pas mal déjà de demandeurs d'asile. Aujourd'hui, les chiffres indiquent que nous recevons 90% en fait, des consultants à la PASS qui sont d'origine étrangère. Sur ces 90%, une grande majorité est constituée de demandeurs d'asile. À Nantes, l'accueil des demandeurs d'asile se fait par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle AIDA. Cette plateforme d'accueil d'information et d'orientation est devenue au fur et à mesure un de nos partenaires les plus importants. En effet, la majorité des personnes qui fréquentent la PASS sont orientées par AIDA. Les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ont également évolué au fil du temps, notamment avec l'instauration de la régionalisation de la demande d'asile. En fait, il s'agit pour toute personne qui souhaite déposer une demande d'asile de s'adresser à une préfecture de région, et en ce qui nous concerne, Nantes. Ainsi, nous avons constaté l'arrivée d'un nombre de plus en plus important de demandeurs d'asile sur Nantes. Non pas qu'il y ait plus de demandeurs d'asile en France, hein, les statistiques nous montrent que le chiffre est plutôt stable, mais dans les grandes agglomérations régionales. Les changements législatifs ont imposé le regroupement de ces populations sur un même territoire, ce qui a pour conséquence des difficultés d'accès à de bonnes conditions d'accueil. Et l'exemple flagrant, en tout cas, qui se pose chez nous, et je l'ai entendu déjà ce matin, c'est bien l'absence d'un hébergement pour tous. À cela s'ajoute la problématique de l'exil, les raisons du départ, et ainsi que les conditions de déplacement souvent périlleuses pour les personnes qui arrivent à Nantes et qui, du coup, arrivent dans un état de fatigue et de stress intense. Donc, ces personnes sont reçues à AIDA et dans cette association, il n'y a que des travailleurs sociaux. Et si nous envoie autant de personnes demandeurs d'asile, c'est parce qu'ils ne sont pas en capacité de définir s'il s'agit réellement d'une raison médicale ou est-ce que c'est plutôt une souffrance sociale qui se décline en fatigue et en stress. Donc, nombre de personnes primo-arrivantes à Nantes se voient donc proposer une orientation vers la PASS. D'autant qu'il n'y a en fait pas trop de possibilités en dehors de nous, puisque les droits ouverts à un régime d'assurance maladie ou même à un statut, aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, se sont élargis. Une personne primo-arrivante demandeur d'asile à Nantes va s'adresser à l'association AIDA qui, à ce jour, va proposer un rendez-vous pour une domiciliation au mois de janvier. On est, je crois, au 5-6 janvier. Donc, il faut attendre un mois et demi. Donc, pendant ce un mois et demi, ils sont pas demandeurs d'asile. Ils ont juste un petit papier avec un rendez-vous et donc ne peuvent s'adresser à personne d'autre, même en termes sociaux. Et donc, non plus en termes d'assurance maladie, évidemment, donc ils ne peuvent pas s'adresser à un médecin généraliste de ville et s'adressent à notre consultation. Alors, voilà, c'était un petit peu pour vous présenter le contexte. Et là, je vais vous exposer une situation qui est assez représentative du quotidien, voilà, du quotidien de la PASS de Nantes. Alors, il s'agit d'une famille, la famille M. Ils sont originaires d'Arménie et sont arrivés en France 2 jours avant de consulter à la PASS. Cette famille se compose d'un couple, de 2 enfants et de la mère de madame. Ils sont arrivés pour faire une demande d'asile. Nous sommes le 22 novembre 2011, oui, donc c'est une. Comme quoi, même depuis l'année dernière, on est dans les mêmes situations. Et donc, pour pouvoir demander l'asile, les personnes doivent s'adresser. Enfin, doivent donner une adresse à la préfecture et donc s'adresser à AIDA qui leur donnerait une domiciliation. Mais pour ce faire, il faut attendre des semaines pour ce rendez-vous. À l'époque, cette famille attendait 3 semaines. Là, je vous dis, on est à au moins 1 mois et demi, presque 2 mois d'attente. Et donc, pendant cette période, la famille est sans papier et ne possède que cette lettre de rendez-vous à AIDA. Donc cela suppose que pendant cette période, ces gens n'ont aucun droit, et enfin n'ont en tout cas pas les droits des demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accéder à l'hébergement via la demande d'asile, ils ne peuvent pas bénéficier d'une allocation temporaire d'attente qui leur donnerait un minimum de ressources, et n'ont pas non plus de couverture maladie. Alors la première fois qu'ils viennent, le monsieur vient à la consultation pour faire un check-up. Il est porteur d'une hépatite C chronique qui était déjà suivie en Arménie depuis 2007. Il avait également un traitement. En fait, au fur et à mesure, on se rend compte que la principale demande de la famille au moment de leur venue à la PASS était en fait de rencontrer l'assistante sociale, car ils pensaient qu'elle pourrait les aider à trouver un hébergement. À cette époque, et encore maintenant, l'accès à l'hébergement des familles demandeurs d'asile primo-arrivantes, c'est l'hôtel. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus de financement, il n'y a plus d'hôtel. Les familles sont dehors et peuvent être dehors donc pendant au moins jusqu'à la domiciliation d'AIDA, voire plus dans certaines circonstances, malgré le plan hivernal qui s'est ouvert récemment. Alors, oui, voilà, donc... Donc, pour ma part, au niveau de mon travail, les seuls moyens que j'ai, c'est d'appeler le 115 et de faire un signalement à la direction départementale de la cohésion sociale. Voilà. Malheureusement, ces gens sont revenus dans la même situation, encore sans hébergement, et donc j'ai été amenée à les revoir à nouveau. Bon, c'est une situation... actuellement, on en reçoit au moins une par jour... du même acabit, femme enceinte. Voilà. Donc je voulais juste rappeler que en fait, la PASS est un lieu de soins, c'est-à-dire que normalement, pour pouvoir venir à la consultation, il faut avoir besoin de voir un médecin. Cependant, du fait des modalités d'accueil de plus en plus restreintes pour les demandeurs d'asile, notamment l'absence de logement, les personnes sont très vite orientées à la PASS. On a eu cet été le voyage à Nantes et on disait que voilà, la PASS faisait partie aussi du voyage à Nantes. Après AIDA, on allait à la PASS. Et principalement, les gens venaient, mais que leur demande principale concernait le logement. Donc là, on assiste vraiment à des glissements, en fait, mais il s'agit de stratégies pour les personnes. Évidemment, au bout d'un certain temps, les institutions, les structures sont un peu connues et étant les seules à pouvoir recevoir des gens qui n'ont accès nulle part ailleurs, un centre médico-social, ils n'y auront pas accès. Donc, en fait, ils vont utiliser un mal de tête, une fatigue. Et puis aussi, ça peut se comprendre, hein, des conditions de voyage quand on vient de Mongolie et qu'on a fait 15 jours, 3 semaines de camion. Voilà, c'est aussi complètement normal qu'ils viennent consulter à la passe. Mais on assiste à des glissements et à des... à des stratégies humaines qui vont faire que, par l'intermédiaire du soin, on va essayer de toucher le social. Voilà.
Donc, on va commencer les échanges donc par les questions écrites. Donc on a quelques questions du public, avant qu'il y ait des questions orales qui émergent.
Il y avait des timides qui n'osaient pas parler, voilà. Donc ils ont écrit.
Ils ont dit qu'on va privilégier dans un premier temps les personnes qui, des fois, n'osent pas prendre la parole. Alors, la question est « Pression directe de l'administration hospitalière sur ces cas particuliers ?» Point d'interrogation. Dominique
Oui, mais je ne comprends pas très bien la question.
Ça veut dire, est-ce que l'administration fait pression directement ?
Sur nous, en tant que...
Sur les passes, sur...
Non, nous, on a la chance d'avoir une administration bienveillante, donc elle ne fait pas pression sur nous. Par contre, c'est si on envoie le patient faire un examen dont il a besoin, il va avoir une facture et puis quelques mois après, il va avoir une relance d'huissier du Trésor public français. Et voilà, ce qui est juste pas possible. Donc on n'a pas de... Moi, pour ma part, j'en ai pas.
On n'entend pas remonter de pression administrative au sens...
Alors, pas réellement, en tout cas, en ce qui me concerne. Hein. D'abord, pas réellement une pression administrative, on ne peut même pas appeler ça des menaces, mais on nous dit bien qu'on pourrait fermer d'un jour à l'autre si jamais on dépensait trop d'argent parce qu'il n'y en avait pas suffisamment et que voilà. Et donc je ne sais pas si on peut appeler ça une pression ou des menaces, en tout cas ce n'est pas formulé de cette façon-là, mais on sait qu'il y a une épée de Damoclès et on sait que on n'est pas, la structure n'est pas pérenne.
Autre question ?
C'est long, ça. Ouais. Alors, une autre question. À quoi servirait une passe qui ne dispose même pas d'une assistante sociale ?
Rien.
Non, qui ne dispose que d'une assistante sociale.
Que
d'une assistante sociale,
sans médecin. Céline, peut-être ?
Oui, Céline.
La suite va avec, en fait.
Mais en fait... Pour moi, le rôle d'une assistante sociale dans une passe, c'est pouvoir recevoir les gens, constater les problématiques d'accès aux soins et proposer une aide pour accéder aux soins. Donc, tant que ça reste administratif, peut-être que c'est suffisant, mais en même temps, le but, c'est aussi l'accompagnement vers le soin. Donc, il faut l'accès au plateau technique et une assistante sociale n'est pas... en capacité de définir les problématiques de soins, l'urgence. Enfin, je pense que c'est une complémentarité, en fait. Si c'est médico-social...
Si je peux me permettre d'intervenir, je suis à la passe de Brest. Et donc, en fait, effectivement, j'ai longtemps été seule...
Vous êtes assistante sociale.
Assistante sociale. J'ai longtemps été seule sur le terrain, et puis maintenant, je travaille en binôme. Et c'est vrai qu'effectivement, au niveau de l'intervention sociale, c'est une intervention sociale habituelle sur l'AME, etc. La spécificité d'être une PASS, c'est qu'une assistante sociale seule peut activer le réseau avec les partenaires extérieurs, c'est-à-dire mettre en place un comité de pilotage avec le CCAS, avec, etc., les instances, et du coup, mieux faire fonctionner aussi la sortie d'hôpital, les admissions vers l'hôpital, activer les partenariats, alors que le service social, en tant que tel, n'a pas ces partenariats-là spécifiques directement. Donc, c'est vrai que c'est mieux avec médecin, évidemment, mais une assistante sociale seule peut déjà entamer la vie.
À partir du moment où elle est consacrée uniquement à la passe, parce que elle est sur d'autres services hospitaliers, ça fait beaucoup de travail.
J'étais à mi-temps, j'ai fait les urgences, les victimes de violences, la passe sur un mi-temps, et j'avais des services sur un autre mi-temps, mais c'est vrai que Je crois que je travaille assez vite et ça m'a aidé à travailler de plus en plus vite. Mais c'est vrai que les partenariats, là, ont été... Et c'est quelque chose qui a beaucoup aidé à débloquer des situations, quand même,
oui,
ces partenariats.
Oui, sûrement, mais il faut du temps pour activer des partenariats. Ouais. Et quand on n'est pas uniquement sur un service, et quand on a plein de services, comme vous le dites, ça doit être vraiment très compliqué.
Quelquefois, les partenaires n'attendent que ça. Hein. Donc, quand les partenaires n'attendent que ça, ça va assez vite. Finalement, les partenariats, ce n'est pas si compliqué si on tombe sur des partenaires qui sont dans l'attente.
On rappelle ici que la PASS, c'est un accès aux soins. Et un accès au droit qui va avec, mais c'est quand même une demande de soins qui
est. Et dans les textes initiaux de la PASS, il est aussi précisé qu'effectivement cet accès aux soins et aux droits se fait en articulation avec des partenaires internes et externes. Et que c'est structuré, et donc sur comment organiser des PASS, le document donc du ministère de 2006, je crois, il est bien précisé que des partenariats extérieurs doivent être formalisés.
Il y a une question complémentaire et après on va laisser peut-être.
Très rapidement, pour cette question. Effectivement, les PASS, ce sont des structures de soins. Hein. L'assistance sociale ou l'assistance sociale est une pièce maîtresse. Et le public, souvent, c'est pas un endroit où on oriente, c'est un endroit où on soigne. Et donc, oui, c'est un endroit où on soigne un public bien spécifique. Et c'est ce qu'on essaye de dire à chaque fois, qui nécessite une attention toute particulière et qui est différente. Moi, je sais que... Si. Je sais que... On ne fait pas que d'orienter. C'est pas vous avez mal au ventre, vous allez en gastro et vous regardez pas bien, donc ça va être un ophtalmo. Les choses sont.
C'est la question qui était posée par la personne en complément de la première question. Dans plusieurs PASS, on constate que c'est l'assistante sociale qui reçoit le patient en premier. Évidemment, elle se trouve en difficulté pour décider si oui ou non le patient a besoin d'être vu par un médecin en urgence ou plus tard, puisqu'elle n'a pas de compétences en la matière. Exactement. Où est l'éthique dans un tel fonctionnement? C'est vrai que la question professionnelle est posée ici.
Excusez-moi,
c'est une vraie question, c'est peut-être une des questions centrales.
Excusez-moi, je tenais à réagir sur la collègue assistante sociale et puis la collègue qui est en train d'être à la table ronde. Donc moi, je suis assistante sociale à la PASS du Nord-Mayenne et coordinatrice de la PASS, je suis assistante sociale. Et je suis toute seule dans la PASS. Donc je tenais à réagir pour faire écho à ce que disait la collègue. Donc on a eu un financement PASS d'un temps plein assistante sociale et d'un mi-temps secrétaire. Donc le médecin qui est actuellement, là je suis toute seule aujourd'hui, mais il y a une médecin chef de service des urgences qui fait ça sur du temps bénévolat. Les cadres supérieurs et les cadres de santé des urgences font sur aussi son temps bénévole. Et pour réagir à ce que vous disiez, donc moi j'interviens sur plusieurs services de l'hôpital de Mayenne, les urgences, notamment la chirurgie, les soins de suite, un service de médecine. Et dans mon temps plein, je suis coordinatrice du réseau. Donc il y a une commission de concertation qui réunit des professionnels de terrain, des comités de pilotage. J'étais d'ailleurs hier animé un comité de pilotage avec des partenaires extérieurs. J'informe tous les partenaires, je les ai par téléphone. Donc oui, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, c'est chronophage, comme on peut dire. Mais ça vaut le coup, puisque ça fait 3 ans que je suis sur ce poste-là. Et aujourd'hui, je vois le fruit un peu de toute cette énergie-là. Et on arrive à accompagner vers le soin, même si, effectivement, nous, en tant qu'assistante sociale, on ne peut pas évaluer l'urgence d'une situation. On n'est pas médecin, on n'a pas ces compétences-là. Mais à la fois, on est accompagnante. Et c'est à nous aussi d'activer le réseau, d'activer les partenaires, d'aller les chercher, de mettre la personne face aux partenaires qu'il a besoin pour faire évoluer sa situation. Donc voilà, je voulais juste témoigner pour dire que c'est possible.
Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Après, vous avez bien dit que ça fait 3 ans que vous êtes en train d'activer, donc là, vous commencez à avoir le fruit. C'est pour ça, 3 ans, c'est beaucoup quand même. Même si c'est positif, hein, et que tant mieux, mais c'est beaucoup de temps. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il existe des passes avec une seule assistante sociale, puisque c'est vrai que notre travail, c'est aussi quand même de détecter les obstacles d'accès aux soins et les critères de précarité, puisqu'on reçoit des gens en situation de précarité. Mais c'est vrai qu'après, je disais que le médecin est évidemment nécessaire dans ces orientations médicales dans lesquelles on n'est pas du tout légitime.
Oui, Dominique. Juste un petit mot, c'est aussi le médecin à la PASS permet d'entamer un suivi de médecine générale complexe. Et ça, pour moi, c'est indispensable. C'est qu'on prend le temps, en tant que médecin et fixe, de voir le patient dans son ensemble avant de l'orienter.
et de voir quelles sont les pathologies. Et en fait, c'est ce qui fait aussi la qualité essentielle de l'exercice médical à la PASS. Et,
ouais. En fait, c'est à peu près ce qu'on dit tous. Hein. Effectivement, beaucoup de médecins qui ne travaillent pas dans les PASS le font très bien également. Mais tous, malheureusement, ne le font pas et tous n'ont pas le temps de le faire. La spécificité du médecin de la PASS, c'est justement ça. C'est de travailler en collaboration avec toute une équipe pour repérer toutes les difficultés d'accès aux soins et pour les contourner. En fait, à la PASS, on ne soigne pas des maladies, on soigne des malades. Et le problème, c'est qu'effectivement, on peut orienter, on peut avoir un excellent réseau. Je ne suis pas sûr qu'on trouve partout des médecins qui sont sensibilisés à ce genre de problème et qui reviennent à ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire soigner le malade, mieux le connaître, savoir de quoi il vit, où il vit, comment il vit. Et ça, c'est assez spécifique au PASS. Donc, je ne suis pas en train de défendre le métier de médecin de PASS. Ce n'est pas du tout ça. Ce que je dis, c'est que comme il y en a qui sont spécialisés en cardiologie, eh ben, y en a d'autres qui sont plus ou moins, qui ont acquis cette expertise.
Alors, juste, il y a un commentaire, plus commentaire que question. Mais le développement et la promotion des PASS ne risque-t-il pas de faire de la PASS une spécialisation de la prise en charge de la précarité? La réflexion éthique de la prise en charge du entre guillemets patient précaire ne doit-elle pas dépasser le champ de la PASS et ainsi faire un débat global avec tous les intervenants de la santé? Certainement oui. Le risque évident serait que toutes les institutions de santé qui n'ont pas de PASS orienteraient les patients sans couverture sociale systématiquement vers les PASS spécialisés dans la précarité, faisant ainsi l'économie d'une réflexion globale sur la prise en charge de ces personnes précaires dans le système global de santé. Là, il y a une vraie question, hein, spécialisation, mais on peut la retourner plutôt dans le sens, enfin, il me semble, qui a été évoqué par Didier Sicard. C'est au contraire que, justement, cet esprit d'une prise en charge de la personne dans sa globalité soit diffusé dans l'ensemble du système de santé. C'est peut-être plutôt ça, cette orientation, plutôt que se limiter à une spécialité qui n'a pas vraiment de sens.
Alors, madame, et puis monsieur, depuis tout à l'heure...
Oui, alors je voulais intervenir aussi, donc pédiatre toujours à Créteil, à la PASS, dans la prise en charge de la santé globale, que ce soit d'ailleurs enfant ou adulte. Je trouve qu'il y a un versant dont on n'a absolument pas parlé, qui pour moi intervient dans la santé au sens large, c'est la nutrition. La nutrition, c'est une spécialité aussi en matière de santé. On voit la nutrition à l'envers dans nos consultations PASS, avec des patients qui ont faim. Et on en voit encore actuellement, j'en ai vu hier, deux enfants qui étaient dans une situation où ils ne mangeaient pas à leur faim. Et c'est quelque chose de récurrent et de plus en plus fréquent, indépendamment du problème de toi. Donc je voudrais qu'on élargisse véritablement, on a parlé d'éthique, mais cette éthique, elle est beaucoup plus large. Et je crois qu'il faut véritablement aborder cette santé dans un sens extrêmement global et ne pas se cantonner strictement à la médecine telle qu'on l'entend dans son sens réducteur. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de ces problèmes qui restent simplement des problèmes d'assistante sociale et qui devraient aussi nous impliquer comme médecins.
L'idée, ce ne sont pas des problèmes liés à la précarité, ce sont des problèmes qui sont mis en avant massivement par ces situations de cumul de vulnérabilité, mais ce sont les mêmes problématiques qui traversent d'autres champs, en particulier le champ de la gériatrie, le champ des soins palliatifs.
Oui, mais enfin bon... je ne parle pas spécifiquement de la pédiatrie, je parlais, j'ai bien précisé, enfants et adultes. Les mères ont faim aussi, ce sont des adultes. On n'a pas accès à une nutrition correcte.
Vous avez raison. Hein. Vous avez raison. Tous les jours, on fait des mots d'orientation vers les associations caritatives parce qu'on reçoit des gens qui n'ont pas mangé depuis quelques jours. Et j'ai utilisé le logement parce qu'aujourd'hui, ça fait vraiment... C'est un problème insoluble qu'on vit tous les jours. Mais l'alimentation va évidemment aussi avec les problèmes de logement. L'hébergement en hôtel où les gens ne peuvent pas cuisiner et vont dans les associations caritatives, on leur donne des paquets de pâtes. Comment mangent-ils? Évidemment, c'est un réel problème et qu'en plus des incidences sur la santé, mauvaise alimentation amène aussi une mauvaise santé.
Alors, ce que vous dites, ça pointe en effet les limites de l'approche purement biomédicale.
Oui. On est tout à fait dans le soin et dans l'approche du soin dans les PASS. Hein. Alors moi, je vais encore vous donner notre exemple. À Pontoise, on a des systèmes de chèques multiservices. Beaucoup doivent connaître ça. Et effectivement, ça va. On ne peut pas imposer à un malade un régime si on ne lui donne pas, au minimum, la possibilité de s'alimenter correctement. Et l'évaluation n'est pas faite seulement par l'assistant social, justement, pour donner ces chèques multiservices, mais aussi par toute l'équipe, l'infirmière, le médecin, pour dire oui, monsieur est diabétique, il lui faut une alimentation spécifique, donc il faut l'aider à faire les courses. Alors pour oui, donc ça fait partie du soin, la nutrition, l'hébergement, et puis tout le reste. D'ailleurs, j'ai une question qui est posée ici là-dessus.
Allô. Bonjour.
Voilà, monsieur.
Oui,
Denis Méchali après, il y a une dame.
Oui. Ah bon. Encore deux, trois questions.
Oui, merci. Bernard Elgozy, c'est pas une question, c'est. Il me semble quand même important qu'on se rappelle tous que PASS, c'est permanence d'accès aux soins. Vous avez raison, mais de santé que vous oubliez un peu. Et dans santé, il y a tout le reste. Nous, on fait ça depuis 25 ans à Créteil, on a ouvert en 87. Et très vite, on a compris que le problème de santé, le besoin de santé, n'était que la partie visible de l'iceberg pour laquelle les gens venaient et qui nous amenaient sur un plateau leur demande de soins. Mais que si on grattait un peu, eh ben, sous le plateau, il y avait leur histoire, il y avait leur parcours, il y avait leur souffrance. Et dans leur souffrance, il y a bien entendu la situation sociale, mais pas que. C'est pas que de la précarité, c'est de la vulnérabilité, parce qu'ils peuvent être cassés dans leur tête et qu'ils ne sont pas capables de mobiliser leurs propres ressources pour aller là où il faut aller, au moment où il faut aller. Donc, à un moment donné, ils débarquent là parce qu'ils ne peuvent plus aller ailleurs, parce qu'ils sont amenés par des copains, par la famille, par un travailleur social, par... Il y a aussi des gens qui sont, à un moment donné, dans l'incapacité de faire l'avance d'argent, parce qu'il y a encore aussi besoin de faire de l'avance d'argent, pas parce qu'ils sont en grande situation de détresse précaire, mais parce qu'ils ont des emplois, mais des contrats à durée déterminée. Alors quand ils bossent, ça va, mais dès qu'ils ne bossent plus pendant 3 mois, c'est la merde, ils ne peuvent pas. Ou alors des emplois à temps partiel, un mi-temps, un tiers de temps, un quart de temps, et que là, on ne peut pas assurer l'ensemble pour toute la famille. Donc, ce n'est pas seulement la précarité, c'est la vulnérabilité qu'on voit. Et nous, on imaginait bien que la partie médicale, la réponse médicale n'était qu'une partie de la réponse, et que le reste, c'était de travailler sur l'ensemble de la problématique santé au sens large. Je refais mon numéro de ce matin, définition, OMS, charte d'Ottawa, etc. etc. Je ne vais pas remettre une couche. Et que nous, très vite, on a non seulement une assistante sociale, on a ouvert avec médecin assistante sociale, mais une psychologue aussi. Et on avait pu avoir des financements pour avoir un poste de psychologue à temps partiel, c'est vrai, mais on a une psychologue. Et on arrive à avoir une approche globale. Et ce n'est pas un des trois qui décide de la réponse à mettre en œuvre, mais c'est ensemble, on discute, pour savoir quelle est l'analyse des besoins globaux et quelle est la réponse qu'on va mettre en œuvre derrière. Et puis, on a la chance d'avoir, depuis 20 ans, travaillé sur un réseau de médecins relais de partenariat qui fonctionne bien aujourd'hui.
Merci, merci Bernard. Ouais. Alors, juste une question concrète, quand même, avant qu'on clôture. Pour Amine.
Ah, ben c'est spécifiquement pour moi.
C'est marqué pour toi. Question entre parenthèses naïve.
Les questions écrites, c'est comme à l'Assemblée nationale. On attend de se préparer, on peut désigner quelqu'un.
Non, mais je sais que tu vas répondre. Si vous avez consommé votre budget de 30 000 euros le 2 juin, que se passe-t-il?
Non,
le directeur ferme-t-il la passe?
Pardon.
Si le budget est consommé le 2 juin, que se passe-t-il? Est-ce que l'hôpital ferme la passe?
Non, l'hôpital ne ferme pas la passe, bien évidemment. Encore une fois, on ne va pas subir des pressions. Non, non, jusqu'à présent, ça ne s'est pas encore produit. Alors bon, l'année d'après, on va nous dire, on va vous réduire tel truc. Mais effectivement, il faut faire le point régulièrement. On a quelqu'un de l'administration qui vient, alors on fait le point, mais bon, on n'en est pas encore là. Mais effectivement, on nous dit que l'hôpital connaît de grandes difficultés. Nous, on ne peut pas vous financer plus que ça. Et si on ne peut plus vous financer, ça veut dire que vous fermerez. Et c'est un peu la menace qu'on nous oppose à chaque fois qu'on dépense un peu trop. Donc effectivement, on est toujours dans cette retenue. On essaye de ne pas trop exploser notre budget. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, j'assimilais ça à la médecine de catastrophe, dans la mesure où nos moyens ont laissé de toutes les façons limités. Et on est obligé de faire avec.
Bonjour.
La question qui est sur le papier, encore pour moi?
Oui. Alors, la personne a insisté.
Quelle est la réaction du médecin que vous êtes face à un malade qui se préoccupe plus de sa situation de sans-papier plutôt que de sa pathologie? Selon vous, le traitement de sa situation précaire, donc de sans-papier, relève-t-elle aussi de votre obligation de moyens? Alors, je peux répondre très facilement, c'est oui. Donc, je pense que ça fait partie aussi de mon travail, puisque je considère qu'un sans-papier n'est forcément pas en bonne santé, on ne va pas reprendre la définition, et que donc quelqu'un qui arrive et chez qui, moi, je ne détecte pas de maladie somatique, mais qui est préoccupé par cette situation de sans-papiers, je pense que mon rôle aussi est de l'aider à avoir ses papiers ou alors de le bourrer d'antidépresseurs. Alors, comme je n'aime pas beaucoup l'industrie pharmaceutique, je préfère encore l'aider à avoir des papiers.
Alors, Claire, peut-être...
Allô, oui. Bonjour. Donc, je suis médecin au département de Paris. Je travaille dans une permanence médico-sociale où on a des consultations médicales et une évaluation sociale. Et je me posais la question, je vous entends parler des PASS comme lieu de soins, mais est-ce qu'il y a une place dans les PASS pour la prévention? Et si oui, quelle est-elle? Et surtout, par exemple, vous parliez, madame, des demandeurs d'asile qui viennent, qui se présentent sans forcément de plainte.
Oui.
Mais est-ce qu'on ne peut pas en profiter justement pour remettre la santé comme...
Si, parce que je pense que c'est fait au niveau des consultations médicales, évidemment. Et puis on peut parler de prévention en termes de l'accès aux soins et aussi une forme de prévention pour éviter que des pathologies s'aggravent. Il est préférable de pouvoir voir un médecin assez rapidement, avoir accès aux médicaments pour éviter l'aggravation d'un problème de santé aussi. Mais la prévention, oui, se fait sous couvert du médecin.
C'est dans nos missions. Hein. C'est dans nos missions de prévention. Hein.
Il y a aussi une prévention, voilà, comme en médecine générale. Par exemple, sur Besançon, là, on va organiser une campagne de vaccination antigrippale dans les centres d'accueil où tout le monde est dans un dortoir. Donc il y a aussi cette mission-là.
C'est important de la, nous avons de la développer, de la valoriser.
Qui marque la fin de cette session. On va faire le lien avec la session suivante et on aura encore de la place pour la discussion. Hein,
Est-ce que je peux juste apporter un élément de précision, s'il vous plaît?
Alors, précision.
Je suis Roselyne Boost, je travaille pour l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie et je suis pilote du programme régional de prévention et d'accès à la santé dans la Basse-Normandie avec un médecin de santé publique, Dr Kamel. Et nous avons fait dernièrement le tour des PASS de la Basse-Normandie qui sont au nombre de 13. Et effectivement, je souhaitais préciser que l'Agence régionale de santé maîtrise l'enveloppe donnée à chaque hôpital pour les PASS, dont ils ont la maîtrise de l'organisation. Donc l'enveloppe, ce n'est pas l'hôpital qui l'enlève ou qui la met ou qui la maintient, c'est l'Agence régionale de santé qui l'octroie, au vu effectivement d'une évaluation du dispositif que nous avons fait cette année, au mois de septembre-octobre, et nous avons justement l'intention de pouvoir aider les structures et les hôpitaux à mieux se structurer autour de ce dispositif-là, avec les moyens qui sont certes sûrement pas à la hauteur de ce qui serait réellement indispensable pour faire un réel travail comme vous le décrivez toute la journée, mais qui permet quand même de choisir de mettre plutôt un administratif, plutôt un médecin, plutôt une assistante sociale, plutôt un binôme. Le dispositif, c'est un binôme médical et social pour faire une évaluation et l'orientation vers le droit commun. Donc le droit commun en interne à l'hôpital ou en externe selon les besoins nécessaires et selon aussi les nécessités de sortie d'hospitalisation pour que le patient continue d'être suivi, soit par un médecin traitant, soit par d'autres structures, type médico-social, etc. Donc, je voulais juste rétablir que ce n'est pas l'hôpital qui décide d'enlever, de fermer des passes, d'empêcher les gens de fonctionner dans ce dispositif-là. C'est bien une organisation avec les tutelles, et c'est bien, enfin, avec l'Agence régionale de santé.
Jacques, peut-être, veut réagir.
Oui, ah, oui. Alors, après,
au bout de la chaîne aussi que les choses se passent. Après, c'est pas l'hôpital en tant qu'hôpital, mais c'est les chefs de pôle, les chefs de service, d'autres priorités institutionnelles.
On sait bien, pour en avoir parlé plusieurs fois, qu'une PASS, ça peut être une assistante sociale et même une demi-assistante sociale. Donc la menace, c'est pas qu'on ferme la PASS, c'est qu'on passe d'une structure qui existe avec médecin, infirmière, psychologue et même un dentiste, puisque c'est comme ça que fonctionne l'espace de Pontoise, à un mi-temps d'assistante sociale. La PASS ne sera pas fermée, elle existera toujours. Mais la structure fermera. Voilà ce que je voulais dire.
Si c'est après, ça, il y a des choix structurels qui sont liés à l'organisation hospitalière.
Alors effectivement, mais ça c'est... Moi, je suis médecin et mon travail est de soigner. prendre soin des autres. Ça, c'est le travail des autres, c'est pas le mien.
Alors, il y a une autre
les choix
mission.
Structurels, moi, je sais même pas ce que ça veut dire.
Il y a un autre budget qui vient se rajouter, c'est la mission d'intérêt général précarité, et qui vient aussi se rajouter dans le fondement de la tarification à l'acte du milieu hospitalier, qui vient abonder les questions de précarité sur un territoire. Mais peut-être que vous les connaissez pas.
On va passer à la session suivante et on pourra continuer les échanges.
Surtout qu'on va avoir un directeur des finances dans le groupe, donc ça me paraît très bien qu'on passe à la session suivante.
Il reste encore quelques questions, mais je vais les laisser au modérateur suivant. Donc,